C'était Cherokee, un classique de la, du répertoire des jazzmen.
Oui.
Je crois que ça avait été repris aussi par Clifford Brown
d'une
manière
fait.
Fabuleuse Absolument. Aussi. Et c'est toujours Massey Hall, c'est toujours Toronto, et c'est de l'ambiance de concert.
C'est ça.
Et comme vous le disiez tout à l'heure, justement ce désir de capter le jazz peut-être à là où il s'exprime au maximum, ça veut dire dans des concerts en fait, quand il y a ce contact avec le public. C'est cela peut-être qui est remarquable dans ces sessions.
Ah oui, tout à fait. Mais enfin, c'est, là, on a vraiment une musique de génie, faite par des génies. C'est inouï d'imaginer qu'on avait réussi à
mettre, en place,
à mettre en place un tel orchestre, puisque Charlie Parker, Dizzy
Gillespie,
Bud Powell, Max Roach, vous vous rendez compte, c'est, on serait pu être Kenny Clarke, d'ailleurs, à la place de Max Roach.
Oui,
mais enfin, on peut dire que...
Mais Kenny est en Europe à ce moment-là.
Kenny est... En 53, est en Europe déjà.
Oui. En Europe,
tout à fait.
Oui.
Tout à fait.
Où il était resté, je crois, après la venue du grand orchestre de Dizzy.
Tout
il n'est pas retourné.
Mm-hmm.
Il a aimé Paris. On le comprend d'ailleurs. Et à cette époque aussi, beaucoup de musiciens, nous le disions tout à l'heure, étaient à Paris. Et Bud, lui, est venu à Paris. Alors, en quelle époque pour y rester?
Bud est venu pour la première fois en 1956 pour le.
Donc 3 ans après ce concert.
C'est ça. En 56, c'était d'ailleurs un des grands manquants dans tous ces grands personnages qui étaient venus nous voir à Paris. C'était le dernier à ne pas être venu encore. Et on l'attendait, nous les pianistes, vous devez vous en douter, avec une grande impatience. Et puis un jour, on nous a enfin annoncé la venue de Bud dans le cadre de la tournée Birdland, qui avait été organisée par Norman Granz et Barclay et Charles Delaunay à Paris.
Mmh.
Et lors de cette tournée, il y avait Lester Young, le Modern Jazz Quartet, Miles Davis... Et Bud.
Mais
Sarah Vaughan avait été prévu, mais je crois que Sarah n'est pas venue pour cette fameuse tournée.
Mais qu'est-ce qui a amené Bud Powell qu'est-ce qu'il a décidé à rester à Paris et à pratiquement y vivre?
Bah, vous savez, une fois encore, je vous répondrai que c'est pas lui qui en a décidé ainsi, c'est toujours des gens qui décidaient pour lui. En réalité, Bud avait été, on lui avait redonné ses droits aux États-Unis. Le tribunal avait décidé sur les instances d'ailleurs de son avocat. Le tribunal avait dessaisi Oscar Gustin de son rôle de tuteur légal. Oscar Gustin s'est aperçu qu'il allait perdre le contrôle des affaires de Bud Powell et il a dépêché à ce moment-là un personnage haut en couleur et bien connu du milieu des musiciens de jazz, une dame qu'on appelait Buttercup.
Mmh.
Et qui s'est fait passer très longtemps pour la femme de Bud Powell et laquelle Buttercup était chargée par Oscar Gustin de surveiller les affaires de Bud Powell en Europe et de lui rendre des comptes évidemment. Alors Buttercup a joué relativement le jeu lors de cette tournée Birdland. Par contre, elle est revenue en 1957 pour une autre tournée européenne encore. Et là, elle a décidé de travailler pour son propre compte, si j'ose dire, et de diriger les affaires de Bud. Et puis, comme Oscar Gustin avait rué dans les brancards à New York, elle a décidé, c'est donc pour cela que je vous explique tout cela, elle a décidé de rester en Europe. Et elle est revenue définitivement en 1959 avec Bud, pour notre plus grand bonheur, puisque nous avons eu la chance de pouvoir le voir tous les jours et puis de le garder avec nous.
Mm-hmm.
Et puis peut-être aussi de prendre un petit peu en main cette situation et d'essayer de redonner un peu de bonheur à cet homme qui vraiment avait perdu tout espoir.
Mais dans ces années 53, 54, 56, comment sont les choses pour le jazz, comment sont-elles aux États-Unis? J'ai l'impression qu'elles n'étaient pas très bonnes.
C'est-à-dire que pour nous, les amateurs, nous avons l'impression que ça fonctionne très très bien, parce que la musique est créative, elle est extraordinaire, ça explose de tous les côtés. Il y a des jeunes pianistes comme Horace Silver qui créent quelque chose avec Art Blakey, les Jazz Messengers, ça va être une grande aventure. Nous avons Clifford Brown encore, enfin jusqu'en 55, Clifford Brown qui lui aussi a un courant musical très intéressant. Tout ça, ça nous semble marcher très très bien, fonctionner très très bien. Il y a les tournées du JATP aussi, organisées par Norman Granz. En réalité, pour les musiciens de jazz,
c'est pas très bon.
C'est pas très bon. C'est pas
New York n'est pas très bon.
New York n'est pas très très bon parce qu'il y a
la 52e rue a fermé. Enfin, ouais. Pratiquement disparu, il n'y a pratiquement plus de jazz, c'est des striptease.
Les clubs, effectivement, sont fermés les uns derrière les autres.
Mm-hmm.
Et pourtant, toute cette rue était truffée de clubs.
C'était une rue historique, ouais. Jazzistiquement.
Donc, on a une fausse idée, si vous voulez, de ce qui se passe. On croit que tout va bien. Bon, tout va bien musicalement parlant, mais pour les musiciens, c'est pas formidable. Sauf peut-être pour certains musiciens, ceux qui appartiennent à l'écurie, je dirais, de Norman Granz. Mm-hmm. Bon, Norman Granz est un personnage contesté, il y a toujours des détracteurs, mais il faut lui accorder au moins une chose. Quand on parle avec les musiciens aujourd'hui de ce personnage, les musiciens s'accordent tous à dire que Norman Granz a toujours été un producteur, un manager très correct. Il a toujours très bien payé ses musiciens, il leur a été fidèle et il les a souvent aidés, même à titre personnel, quand les gens avaient des difficultés. Norman Granz était là, donc c'est une petite aparté, mais pour dire que les gens qui appartenaient à cette écurie, eh bien, travaillaient régulièrement. Mmh. Ou alors il fallait être entre les mains d'un manager, ce qui était le cas d'Errol Garner, par exemple, qui avait quelqu'un qui s'occupait très bien de ses affaires. Mmh. Et pour lui, ça fonctionnait bien. Mais pour les autres, c'était chaotique. Il y avait des hauts et des bas, et ces gens-là ne mangeaient pas à leur faim tous les jours.
La galère, quoi.
La galère.
On revient au concert de Massey Hall avec Hot House.